They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
正忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontagny. Troisième volet de notre série consacrée à la justice internationale, aujourd'hui on va parler des écocides, les pollueurs à la barre.
Poaching and trafficking in wildlife.
Le braconnage et le trafic sauvage sont des crimes internationaux. Notre combat sera victorieux si les pays et les continents s'associent pour lutter ensemble. Le premier pas doit être une plus forte coopération, en particulier entre les États où vivent les troupeaux d'éléphants.
Africa's remaining elephant herds.
J'appelle les États d'Afrique australe à peser les conséquences de l'existence de leur stock d'ivoire. Tant que vous gardez ces stocks, vous suggérez qu'il y aura de nouveau un marché à l'avenir.
Nous essayons d'envoyer un message. Pour envoyer ce message et faire quelque chose de spectaculaire, nous allons brûler ces défenses, comme nous l'avons déjà fait. Le Kenya a montré le chemin dès 1989. Nous voulons seulement voir l'ivoire sur des éléphants vivants.
Eh oui, le Kenya qui a été le théâtre samedi dernier de la plus grande cérémonie de destruction d'ivoire par le feu jamais organisée sur le continent. 11 bûchers de 10 000 défenses ont été dressés et 105 tonnes d'ivoire sont parties en fumée, c'est-à-dire 5% du stock mondial. Un geste fort adressé aux braconniers du monde entier, responsable de la mort de 30 000 éléphants chaque année en Afrique. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Une preuve parmi d'autres que ces crimes environnementaux, parfois aussi appelés écocides, font l'objet d'une prise de conscience croissante auprès du grand public, mais aussi auprès des États. La Journée mondiale de l'environnement, qui aura lieu le 5 juin prochain, sera consacrée cette année au commerce illégal des espèces sauvages. Mais les écocides peuvent recouvrir bien sûr bien d'autres choses. Le trafic de déchets, l'exploitation minière, la pollution industrielle, des crimes et des délits qui représenteraient des dizaines de milliards de profits chaque année, mais pour lesquels les peines, elles, restent extrêmement rares et modestes. Pourquoi est-il si difficile de faire appliquer le droit environnemental? La justice climatique n'est-elle qu'un vœu pieux? Comment défendre au niveau international les victimes des grandes pollutions industrielles? Est-ce qu'il faudra créer peut-être une cour spécifique pour les crimes environnementaux? On prendra la direction ce matin de Madagascar, où le trafic de bois de rose continue de prospérer, ce qui nous permettra peut-être de comprendre que derrière cette question des écocides, on en trouve une autre, celle de l'enjeu, bien sûr, du développement. Et puis on ira également du côté de l'Indonésie, auprès des travailleurs pauvres des mines illégales d'étain, avec Julien Bouisseau, le correspondant du Monde en Inde. Pour nous accompagner ce matin dans cette émission consacrée aux écocides, on a invité Laurent Néret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, vous êtes professeur de droit de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin, auteur entre autres des écocrimes à l'écocide, le droit pénal au secours de l'environnement. D'abord peut-être un petit mot, Laurent Néret, d'actualité. Hier, vous avez peut-être entendu Mathias Fekel, le secrétaire d'État chargé au commerce extérieur, qui expliquait chez nos confrères d'Europe 1 qu'il était probable que les négociations sur le TAFTA soient stoppées. Il expliquait que, en l'état actuel des choses, le texte n'était pas dans la lignée de ce qui a été décidé à Paris lors de la COP21. Et il disait la France porte avec beaucoup de détermination le fait que le droit de l'environnement doit être contraignant au même titre que le droit commercial. Vous avez été rassuré, Laurent Néret, par le secrétaire d'État quant à l'importance portée par la France en matière de droit de l'environnement?
Mais ça fait déjà plusieurs années qu'à l'échelle européenne, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, annonce que les intérêts économiques ne priment pas, par principe, les intérêts écologiques, et que les deux sont d'égale valeur, qu'ils méritent alors d'être mis en balance et qu'effectivement, selon les circonstances, c'est l'un ou l'autre qui doit l'emporter. Mais dans tous les cas, je crois que on est dans une phase de consécration d'un rehaussement de la protection de l'environnement, tout simplement parce que les deux ne sont pas concurrents, économie et écologie, mais au contraire, il y a bien une solidarité, l'un sans l'autre ne fonctionne pas, et Nicholas Stern, l'économiste britannique, l'avait bien montré, finalement, à dépenser aujourd'hui pour préserver l'environnement de demain, on y gagnera beaucoup. Donc voilà, c'est une solidarité.
On y gagnera beaucoup et en même temps, quand Mathias Fekel fait référence à la COP21, il oublie de dire que dans le texte sur lequel on s'est mis d'accord à Paris, il n'y a pas mention de la lutte contre la criminalité environnementale.
Alors, c'est peut-être lié là à autre chose, c'est parce que, si vous voulez, le droit international, c'est un droit qui est très sectorisé et très spécialisé, c'est-à-dire qu'on a une convention pour un problème. La convention cadre des Nations Unies qui est relative au climat traite des problématiques d'émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Pour les problématiques liées à la criminalité environnementale, on a un éclatement d'autres conventions, comme la convention de Bâle sur les commerces des déchets, ou encore la CITES, cette convention qui réglemente les marchés en lien avec les espèces protégées. Donc voilà, c'est pas spécialement ou seulement à regretter, parce que ce droit est très sectoriel et que réussir à mettre d'accord déjà près de 198 États sur une question qui est la question aussi prégnante et pointue que le climat, c'est déjà une gageure. Donc le droit international se fait un peu à petits pas parce que c'est différent du droit interne. Il faut mettre d'accord un nombre d'États qui n'ont pas le même niveau de développement et pas la même culture juridique.
Monsieur le professeur, qu'est-ce qu'on appelle la criminalité environnementale ? Quelle réalité au pluriel ça recouvre ? Comment différencier les écocrimes de l'écocide ? Que nous dit le pénaliste que vous êtes ?
Alors, derrière le premier terme, le terme de criminalité, il faut l'entendre un peu à l'anglo-saxonne. La criminalité renvoie à la violation des règles en matière environnementale. C'est pas simplement le crime qui relève de la cour d'assises. Donc derrière criminalité, on entend largement toute la délinquance qui va de l'infraction la moins grave à la plus grave. On peut établir une hiérarchie, je dirais, en trois catégories. Il y a des violations du droit environnemental assez opportunistes. On abandonne des déchets sur le coin d'une route de manière ponctuelle ou bien au retour d'un voyage au Maghreb dans nos bagages, les uns ou les autres transportent ici une tortue, là un chardonneret qui a fait l'objet d'un papier dans Le Monde de cette semaine par Marie-Béatrice Baudet sur ce nouveau trafic. Donc tout à fait ponctuel, un acte de braconnage isolé. Et puis, niveau plus grave dans l'état de la criminalité, qui supposera des sanctions plus graves et aussi des modes d'investigation spécifiques, c'est ce qui découle d'une stratégie d'entreprise où là, la loi va être violée de manière répétée, où par exemple, les taux de pollution des véhicules vont être falsifiés. Et
vous pensez évidemment à Volkswagen.
Sans les citer.
Et moi, je l'ai fait.
C'est donc une falsification qui est consciente, qui
intentionnelle,
est répétée et intentionnelle.
Bah, parce que c'est ça aussi que vous dites, dans ce concept d'écocide, il y a le caractère intentionnel. Vous dites par exemple que l'explosion de la plateforme pétrolière BP en 2010 dans le golfe du Mexique, qui avait généré, on s'en souvient, cette terrible marée noire, c'est plus finalement de l'ordre de la négligence, de la catastrophe industrielle, mais il n'y a pas l'intention de provoquer une marée noire.
Le droit pénal en général, il a comme particularité d'être gradué en fonction de la gravité du comportement, de la faute qu'on a commise et puis de la valeur qu'on a violée. L'homicide involontaire sera moins sanctionné que l'homicide volontaire. Et au-delà, le génocide, qui peut prendre la forme du fait de tuer un tiers, sera plus lourdement sanctionné et poursuivi que le simple homicide, parce que la valeur qui est protégée est de la valeur supérieure de la dignité humaine. Et donc, quand on parle d'écocide, alors dans le langage courant, certains peuvent considérer que toute violation de la loi en matière environnementale, c'est de l'écocide, mais d'un point de vue de la sécurité juridique, de la précision et de la rigueur qu'on doit avoir, je crois, je dirais que l'écocide, c'est un peu le prolongement du génocide pour les crimes les plus graves commis intentionnellement, qui entraîne une atteinte grave et irréversible à l'environnement, du type des trafics internationaux qui relèvent du crime organisé et des mafias, ou d'affaires dont on pourra parler, comme l'affaire du Probo Koala.
Eh ben, allons-y, Probo Koala, c'est le cas d'école en matière d'écocide. aussi. Catastrophe environnementale survenue en Côte d'Ivoire, on est en septembre 2006, qui provoque la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit d'un navire pétrolier acheminant des déchets donc en Côte d'Ivoire, dont l'équipage était russe, immatriculé au Panama, appartenant à une compagnie grecque et affrété par une société hollandaise et suisse.
Depuis 2007-2006, cette catastrophe a frappé tous les Ivoiriens. On a eu recours à plusieurs organisations sur le plan international, par-ci, par-là. Mais je veux dire, jusque-là, nous sommes restés sans satisfaction totale. On ne peut même pas vous dire de façon exhaustive le nombre de morts que les déchets ont causé en Côte d'Ivoire, parce que les gens continuent de souffrir de ce mal-là. Aujourd'hui, toutes les victimes sont inscrites par-ci, par-là. Mais sur le plan international, il n'y a pas une action concrète qui est menée pour faire plier, je veux dire, les fouteurs de troubles. L'État, en son temps, a pu avoir 100 milliards. Mais les 100 milliards, je peux vous dire, la gestion a été catastrophique et opaque. Nous ne savons même pas aujourd'hui si on peut faire un bilan de cette gestion.
Voilà, difficile de faire un bilan de cette gestion. C'était en janvier dernier, donc quasiment 10 ans après les faits. Les victimes n'ont toujours pas été indemnisées. Voilà l'exemple type d'écocide avec justement cette intention de polluer. Il y a eu des condamnations, il y a eu des procès qui ont abouti pourtant dans cette affaire.
Cette affaire est l'illustration, je dirais, de la distinction entre les entreprises vertueuses, ceux qui, au quotidien, en France, en Europe, respectent les règles environnementales, qui ont effectivement un coût, mais qui ont aussi une valeur qui permet la pérennisation de leur activité et la création de richesses et la sécurité aussi pour leur activité. Et à côté de ces entreprises vertueuses, des entreprises, je dirais, tricheuses, celles qui décident d'être un peu passagers clandestins, de ne pas jouer le jeu de la loi. Et voilà ce qui est l'illustration de cette affaire où Trafigura, cette entreprise néerlandaise, pour retraiter des déchets hautement toxiques qui étaient présents dans ce navire du Probo Koala, aurait dû régler la somme d'environ 400 000 euros. Ce qui vraiment très peu au vu des moyens de cette société. Et puis, dans ce cas-là, elle cherche à s'en débarrasser dans plusieurs ports. Elle arrive en Afrique et puis, bien là, va constituer un peu des sociétés avec des écrans, avec véritables fétus de paille, où pendant des jours et des jours, des Ivoiriens vont être recrutés pour aller chercher sur le navire ces déchets dans des fûts et puis sur terre, les déverser ici dans la mangrove, là dans des décharges, tout autour d'Abidjan. Ça a entraîné une odeur qui a intoxiqué près de 100 000 personnes, tellement c'était fort, avec des hospitalisations. Et le problème, c'est comment faire passer la justice dans un État qui était un État dont on connaît évidemment l'absence de stabilité et ce qui s'en est suivi par la suite. Alors, tout a commencé par...
Il y a eu quand même un procès. Il y a eu un procès en Côte d'Ivoire.
Une transaction. Mmh. C'est-à-dire que le chef d'État, Laurent Gbagbo, a transigé avec l'entreprise à hauteur de 150 millions d'euros. Et comme le disait la personne que l'on vient d'entendre, la question est de savoir où est allé cet argent. Et c'est la difficulté aussi de transactions avec des États qui sont des États qui ne sont pas solides, par exemple. Et puis, donc ça, c'était une volonté de localiser le contentieux dans un État dans lequel la justice n'a pas les critères peut-être habituels d'une bonne administration des règles au service des victimes.
Et puis, il y a eu aussi un procès aux Pays-Bas, puisque la société hollandaise, en l'occurrence, a été condamnée, je crois, à 1 million d'euros, alors que l'on évalue le préjudice à plusieurs milliards.
Tout à fait. La sanction des Pays-Bas, ici, c'est une sanction qui relève du pénal. Donc pas pour indemniser les victimes. Et puis, il y a eu l'autre élément. Des avocats et un cabinet londonien, par exemple, s'est déplacé sur place, a fait signer des mandats à des victimes et a réussi, là aussi, à défendre un certain nombre de victimes à hauteur de 45 millions d'euros. Donc, si vous le voyez, on est à près de 200 millions d'euros à payer ici pour économiser 400 000 euros. Voilà qui est particulièrement choquant.
Alors, est-ce qu'on pourrait finalement poursuivre d'une certaine manière cette affaire dans d'autres institutions? Peut-être, en tout cas, c'est ce que vous demandez, parce que vous dites au niveau international, on pourrait créer une cour pénale internationale de l'environnement. Est-ce que ça vous paraît possible? Parce qu'on a vu les cours internationales existantes, on en a parlé déjà cette semaine, hier et lundi, cour internationale de justice, cour pénale internationale, on voit déjà qu'elle souffre terriblement d'un manque de crédibilité, d'un manque de légitimité. Ça va être difficile de faire accepter cette nouvelle cour pénale internationale de l'environnement.
Difficile, oui. Impossible, non.
Et surtout nécessaire.
Nécessaire, mais en l'envisageant, je dirais, à la façon de ce qu'est le meilleur droit, c'est un droit construit avec le temps, par une politique des petits pas. On n'a pas créé la Cour pénale internationale en quelques années. Il a fallu du temps. Et elle a beau être critiquée, mais les décisions rendues ces dernières semaines montrent bien que cela fonctionne. Ce que je voudrais dire
Cela fonctionne quand les États coopèrent.
Et c'est le propre. Et c'est la difficulté d'une juridiction internationale. Donc, à la fois, la question d'une juridiction pénale internationale en matière environnementale est possible, mais attention, en conscience de la difficulté de la consacrer. Je voudrais mettre en évidence deux points. D'abord, pour que une cour soit créée, il faut que les États soient d'accord. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ça porte atteinte à la souveraineté des États.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils le sont ? Ou est-ce qu'on voit clairement des blocages ?
Évidemment.
On sait bien que la Chine, par exemple, n'est pas du tout favorable à cette option. Mais c'est pas la seule, d'ailleurs.
C'est pas la seule. Je rappelle que la Cour internationale de justice, par exemple, ne fait pas l'objet d'une reconnaissance de compétence par la France. Vous voyez, on cite souvent certains États comme n'étant pas les meilleurs élèves, mais pour la Cour internationale de justice, par exemple, la France n'a pas reconnu sa compétence. Donc, oui, il y a des résistances. Et puis, je dirais que les États sont un peu peut-être épuisés de voir se multiplier toutes ces juridictions ad hoc. Tribunaux spéciaux, cours pénales, cours internationales. Alors pour autant, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Ce que je crois, c'est que ce type de juridiction, si ou quand elle verra le jour, voilà ce qui devrait en faire la spécificité. Parce que la criminalité environnementale relève d'un grand nombre de spécificités, notamment le fait qu'elle trouve son assise bien souvent sur un réseau d'entreprises criminelles, j'entends, et la Cour internationale de justice ne connaît que des contentions entre États, donc ça ne pourrait pas être de sa compétence. La Cour pénale internationale de La Haye n'est compétente que pour les personnes physiques, et donc elle ne l'est pas pour les multinationales ou pour des entreprises, ce qui suppose donc de créer une cour qui pourrait et dont on pourrait attraire devant elle des personnes morales et des entreprises en particulier.
On pourrait, Laurent Néré, élargir les compétences, par exemple, de la Cour internationale de justice, parce que vous dites qu'elle n'est pas compétente pour juger autre chose que les États, vous avez raison, mais en revanche, elle est compétente, en tout cas selon elle, pour donner des avis ou des arrêts relatifs à l'environnement. Regardez cette affaire, notamment ce litige entre l'Argentine et l'Uruguay, dans laquelle Buenos Aires accusait Montevideo de polluer un fleuve partagé par les deux pays, où on avait une usine de pâte à papier qui s'était installée et qui avait pollué les eaux. L'Uruguay avait été condamné, donc la CIJ, la Cour internationale de justice, sait faire.
Elle sait faire, mais n'oublions pas et n'oubliez pas avec un autre exemple qui concerne l'environnement, qui est l'affaire des baleines concernant la pêche à la baleine, concernant le Japon. La Cour internationale de justice n'est compétente que si l'État accepte le principe de sa compétence et que si sur un dossier spécifique, elle accepte d'être jugée. Dans l'affaire de la pêche à la baleine qui violerait la convention baleinière où litige a été élevé devant la Cour internationale de justice par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, décision forte de la Cour internationale de justice, demandant au Japon de mettre un terme à sa campagne de pêche, ce qu'il a fait. Qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence, à la fin de l'année dernière, le Japon a reconnu à nouveau la compétence de la Cour, mais en précisant et en indiquant une réserve pour les questions liées à la pêche à la baleine. Ce qui signifie que désormais, la Cour internationale ne peut plus statuer sur ce contentieux. Mais pour, en revanche, la Cour pénale internationale, là, il serait tout à fait envisageable de réformer le statut de la Cour pénale internationale en y ajoutant, au titre des fameux crimes les plus graves que sont les crimes contre l'humanité, le crime de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'environnement, ce n'est pas utopie.
Ah oui, mais ça suffit pas, Laurent Néré, parce que si vous ajoutez le principe de l'écocide dans ce droit international, à l'instar, effectivement, vous le disiez, du génocide, faut-il encore pouvoir poursuivre des personnes physiques? Qui est responsable dans le cas d'une multinationale?
Alors justement, c'est la question de déterminer alors qui l'est. Est-ce que c'est un chef d'entreprise qui aurait utilisé la personne morale comme étant un écran ou pour faire barrage, pour éviter de remonter jusqu'à lui? Mais c'est surtout parce que les personnes physiques peuvent être poursuivies devant la Cour pénale internationale. Ce qui serait important, c'est de savoir comment les multinationales peuvent l'être. Parce que la personne physique n'aurait pas forcément les moyens économiques de payer, par exemple, une somme d'argent forte, une amende forte, qui serait privative des profits réalisés en violant la loi. Parce que ce qui est intéressant en matière environnementale, c'est que elles existent, hein, les sanctions. Simplement, les auteurs de crimes environnementaux commettent ce qu'on appelle des fautes lucratives parce qu'ils savent que même s'ils sont condamnés, les gains qu'ils auront emportés dépasseront de loin les peines encourues. Mais je voudrais dire à propos de la justice internationale que il est vrai qu'elle peut passer, qu'elle passe aujourd'hui par des juridictions internationales ou transnationales qui dépassent les États. Mais la justice internationale, elle peut passer aussi par les juges nationaux, les juges des États. Comment ? Par une sorte de compétence extraterritoriale. Plusieurs exemples dans l'affaire du Probokoala que vous citiez, ce sont bien des juridictions britanniques qui ont condamné la société néerlandaise parce que elle avait des intérêts économiques en Grande-Bretagne. La société Shell, en décembre 2015, qui est condamnée aux Pays-Bas pour des dommages causés au Nigeria entraînant des victimes là-bas. Voilà un autre exemple. Et une autre affaire qui concerne une entreprise américaine bien connue pour les amateurs de guitare, des guitares Gibson, celle la même qui sont celles des légendes de la musique comme Keith Richards ou Bob Dylan. Eh bien, on y a découvert en 2009 des stocks d'ébène provenant de Madagascar. L'entreprise a été condamnée à verser $300,000 et $50,000 en plus pour une association. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas été vigilante et elle ne s'était pas assurée de la légalité de la provenance de ce stock de bois précieux.
En tout cas, ce que vous dites et qui paraît là pour le coup intéressant, parce que je critique cette idée d'une nouvelle Cour pénale internationale de l'environnement, mais il y a une chose qui est intéressante, vous dites que finalement c'est peut-être la meilleure option pour faire émerger justement un droit international environnemental contraignant. Peut-être que c'est le seul moyen finalement. Plus que les sommets et autres. Je me trompe ?
De passer par une cour.
De passer par une cour.
Ou de passer en tout cas par le juge. En fait, les Américains mettent en perspective, les Anglo-Saxons, ce qu'ils appellent une sorte de combat entre la régulation et la litigation. En anglais, regulation versus litigation. Quand la réglementation est lacunaire, quand elle est insuffisante, à régler un problème aussi lourd que la criminalité environnementale. Quelques chiffres quand même, vous le disiez, c'est quand même $213 milliards de profits par an. C'est le quatrième rang des activités illicites après les trafics de drogue, le trafic des êtres humains et la contrefaçon. Eh bien, pour lutter contre tout cela, voilà, d'avoir des juges nationaux puissants, ce serait un point fort. Pourquoi pas appuyer par un procureur international de l'environnement ? C'est une proposition que l'on a faite dans le rapport des éco-primes à l'écocide remis par l'équipe, et c'est un travail de groupe, hein, je suis là pour les représenter tous, remis à la garde des Sceaux, cette proposition d'un procureur international qui viendrait au soutien des procureurs nationaux, un peu comme Interpol, la police des polices internationales, qui, quand les États ou quand des polices nationales n'ont pas les moyens techniques ou financiers, apporte son aide.
Justement, dans ce travail du Monde, parce que c'est vrai, je l'ai pas encore dit, Laurent Néré, mais c'est le moment. En 2011, le journal Le Monde avait lancé une grande série d'enquêtes sur une nouvelle forme de délinquance, donc cette criminalité environnementale. Il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient partis de l'Inde à Madagascar, en passant par la Chine, l'Indonésie, la Belgique, pour comprendre un petit peu tous ces réseaux. Et vous, en tant que juriste, vous aviez participé avec toute une autre équipe, d'ailleurs, de juristes internationaux à ce projet pour éclairer, justement, de la lumière du droit, ces phénomènes des écocides. On va d'ailleurs entendre tout à l'heure Julien Bouissou, sur la question de l'étain du côté de l'Indonésie. Mais lors de ce travail, justement, vous aviez proposé, donc formulé 35 propositions que vous aviez remis à la garde des Sceaux à l'époque en 2015, qui était Christiane Taubira à l'époque, avec deux grands axes majeurs, c'est-à-dire d'abord la simplification des droits nationaux et puis ensuite cette internationalisation de la protection pénale de l'environnement qui, selon vous, s'impose. Comment ça s'était passé lorsque vous aviez rendu les propositions? Quel accueil vous avez réservé? On vous a entendu?
Avant cet accueil qui a été au-delà peut-être que ce que j'aurais pu imaginer lorsque l'on a commencé à travailler en 2011, c'est quand même un travail tout à fait inédit qu'une équipe de chercheurs en droit, où vous le savez, les chercheurs ont cette image, et les juristes encore plus, de quelque chose qui pourrait être parfois dans une tour d'ivoire, détaché de la réalité. Eh bien, nous avons voulu, et merci infiniment à toute l'équipe du Monde, et en particulier Marie-Béatrice Baudet et Serge Michel, qui ont encadré tous les journalistes, qui ont remonté dans 10 pays différents la filière de la criminalité environnementale, c'est d'avoir voulu mieux connaître cette réalité, parce que, à part les déchets toxiques mis au jour par Roberto Saviano dans Gomorra ou l'ivoire, on ne connaissait pas très bien cette réalité. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait avec un travail de longue haleine dans ces 10 pays. Et puis, nous, juristes, on a mis on a tenté de tailler, non pas sous la forme de prêt-à-porter, mais de tailler sur mesure un habit juridique qui était censé ou qui est censé éviter que la criminalité environnementale, les criminels, passent au travers des mailles du filet du droit.
Comment la garde des Sceaux avait accueilli vos propositions?
La garde des Sceaux l'avait accueilli d'une manière très positive, avec deux niveaux. Garde des Sceaux signifie tout de même que sa compétence première, c'est le droit pénal national. Ce que cela avait eu comme conséquence, c'est qu'elle avait annoncé ce qu'elle a fait, une circulaire, 2 mois plus tard, qui était déjà en préparation, mais qui a été un peu accélérée par ses travaux, une circulaire de politique pénale adressée, vous le savez, les parquets ne sont pas indépendants, et donc ça signifie que la garde des Sceaux leur donne des instructions, et là, en cas d'infraction environnementale, elle les oblige à poursuivre les criminels.
Mettez-vous bien devant votre micro pour que les auditeurs vous entendent bien.
Donc une obligation de poursuivre systématiquement les criminels en matière environnementale lorsque des dommages existent. C'est renforcer également la formation des magistrats, c'est créer des magistrats référents, c'est obliger aussi les magistrats à travailler avec les douaniers, les inspecteurs de l'environnement. Bref, voilà.
Donc il y a eu des véritables effets sur le plan national. Est-ce que sur le plan européen, il y a eu aussi des échos? Je vous pose la question parce que l'Europe avait lancé aussi cette idée peut-être de la création d'un tribunal pénal européen pour juger justement les délits environnementaux, on en est où de ça?
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que 2015 a été, 2015-2016 a été un peu une concentration, une accélération, un véritable foisonnement d'initiatives juridiques à l'échelle internationale d'abord, parce que quelques mois après tous ces travaux, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité fin juillet 2015 une résolution où les États se sont tous entendus, autant la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique, pour lutter contre la criminalité environnementale. Et au mois de février dernier, en 2016, la Commission européenne a édicté un plan d'action pour que les États prennent à bras-le-corps cette question, pour éviter qu'un comportement identique, un crime environnemental, soit condamné dans un État de l'Union à 1 an d'emprisonnement, alors qu'ailleurs il serait à davantage, et donc éviter ce fameux dumping environnemental et de faire le lit, je dirais, de cette nouvelle forme de marché criminel.
Et j'indique pour les éditeurs que tout ce travail d'enquête qui avait été réalisé par Le Monde et cette équipe de juristes, on peut le retrouver dans cet excellent ouvrage « Les prédateurs », sous-titré « La nature face au crime organisé ». Et justement, parmi ces enquêtes, eh bien, il y en a une qui concerne l'Indonésie, et l'étain. On va prendre la direction de l'île de Bangka, une île indonésienne où on produit une grande quantité d'étain avec un prix très élevé pour l'environnement.
Oui, je me sens coupable, parce que je fais partie de tout ça. Mais que puis-je faire d'autre ici à Bangka? Si vous ne travaillez pas dans les mines, vous ne pouvez pas vivre.
Je reste là sous le soleil toute la journée et je ramasse à peine 1 kilo. De quoi acheter un peu de riz, du sucre, du café, et c'est tout. Et puis demain, ça recommence.
Ces gens extraient l'étain de leur plateforme en mer. Ils sont des milliers en activité sur toute la côte. Et le pire, c'est que la présence de poissons baisse chaque année. Les pêcheurs doivent aller de plus en plus loin. Ça nous inquiète beaucoup. Ils sont pris dans des glissements de terrain, ils ont leurs bras coincés dans les tuyaux. Il y a au moins une personne qui est tuée chaque semaine.
Voilà, donc extrait d'un documentaire de France Télévisions. On va prendre la direction de l'Inde, de New Delhi, pour retrouver Julien Bouissou, qui est journaliste et le correspondant du Monde en Asie du Sud. Bonjour Julien Bouissou.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct. Vous avez réalisé donc une enquête sur l'extraction d'étain en Indonésie, donc ce métal non ferreux qu'on utilise notamment dans nos téléphones portables. Ces dernières années, on a des points d'extraction dont beaucoup sont parfaitement illégaux, qui sont multipliés un peu partout avec des conséquences environnementales absolument catastrophiques. Dans d'un premier temps, les mines de cassitérite qu'on transforme ensuite en étain étaient d'abord situées dans les terres et puis progressivement elles se sont taries, donc on s'est mis à creuser le sable au fond de la mer, ce qui n'est pas sans provoquer là aussi des conséquences environnementales mais aussi humaines, hein, puisqu'il y a régulièrement des accidents mortels. Vous vous êtes rendu notamment à Bangka, cette île absolument paradisiaque, mais qui par endroit est totalement défigurée par l'exploitation minière. Vous pouvez nous décrire un peu les conséquences en quelques mots sur la nature, sur l'environnement, Julien Bouissou?
Oui, une île qui était paradisiaque, hein, puisqu'il y a encore 10 ou 15 ans, il y avait beaucoup de touristes qui allaient à Bangka, et ce n'est plus du tout le cas. Parce que quand on arrive à Bangka, c'est une île qui ressemble un peu à un paysage lunaire, en fait, avec des cratères un peu partout. Les conséquences, elles sont à plusieurs niveaux. En fait, il y a d'abord la conséquence sur la santé des habitants, puisque désormais, il y a beaucoup plus de paludisme. Il y a aussi des morts, hein, des mineurs qui soit meurent noyés dans l'océan, ou alors... on s'est vu par les parois des mines, en fait, surtout au moment de la mousson. Et puis, il y a les conséquences environnementales. C'est-à-dire que maintenant, au large de l'île de Bangka, il est plus possible de pêcher. Il y a des barrières de corail qui sont détruites. Donc, toute la faune sous-marine est en train de disparaître. Ce qui est très problématique. Pourquoi ? C'est parce que quand on habite à Bangka, on n'a plus d'autre choix que d'extraire, en fait, cette cassitérite. C'est-à-dire qu'avant, sur l'île, on pouvait travailler dans un hôtel, on pouvait étudier, on pouvait pêcher, et maintenant, c'est plus possible. C'est-à-dire que tout le monde, pour survivre, doit extraire de la cassitérite. Ce qui inquiète certains chercheurs, et même les habitants sur place, c'est que pour combien de temps on va pouvoir extraire de la cassitérite, et si les enfants vont plus à l'école, quel sera leur avenir dans 30 ou 40 ans, une fois que les mines... seront épuisés.
Alors vous expliquiez, Julien Bouissou, ouais, dans votre enquête, que le boom de l'extraction illégale de cette cassitérite, il remonte à 2001, année où on a eu une loi qui a autorisé les gens, les habitants à l'exploiter. Sauf qu'en fait, ce que vous constatez, c'est que désormais, il est quasiment impossible de revenir en arrière, parce que ça fait vivre tellement de personnes. Vous le disiez, que l'idée même de l'interdire, disqualifie immédiatement n'importe quel responsable politique. Les politiques n'osent plus interdire ces mines artisanales.
Oui, quand il était question d'interdire en fait l'extraction de cassitérite, il y avait des émeutes, des manifestations énormes, et donc du coup le gouvernement a fait marche arrière. Là, il faut vraiment faire la différence entre les autorités locales et les autorités nationales. C'est-à-dire qu'au plan national, l'Indonésie essaie de lutter contre l'extraction illégale de cassitérite. Par contre, au niveau local, donc il y a un gouverneur qui est très très puissant et qui bénéficie donc de cette mafia minière et qui en fait partie d'ailleurs. Donc même au niveau local, en fait, le gouverneur avait de toute façon organisé ces manifestations. Parce que ça profite aussi à un groupe politique en fait assez puissant sur l'île.
Ce gouverneur, justement, parce que vous racontez qu'il est aussi président de l'association des fonderies de Bangka,
ouais.
C'est une sorte de mafieux, finalement, qui contrôle une quinzaine de fonderies de l'île. Vous nous parlez un peu de cette figure et de la façon dont il fait passer, disons, la vilaine cassitérite qui détruit la nature au bel étain parfaitement propre et prêt à partir aux quatre coins du monde pour être vendu et réintégré dans nos appareils électroniques.
Alors, il faut faire la différence pour la cassitérite. Donc, la cassitérite, c'est un sable noir qu'on extrait à la fois sur l'île ou dans les fonds sous-marins. Et cette cassitérite, il faut la transformer en étain. Et ça se fait dans les fonderies. Il y a à peu près une vingtaine ou 25 fonderies sur l'île. Donc, tous les moyens sont bons pour extraire la caisse éthérite. De l'écolier qui a que ses mains pour creuser le sous-sol et qui en extraira quelques grammes, à des bateaux qui ressemblent à des hangars flottants et qui, eux, raclent les fonds sous-marins et qui en extraient des tonnes. Donc c'est vraiment tout le monde qui essaie d'en extraire avec les moyens qu'ils ont. Il y a d'ailleurs, dans l'extraction cassitérite, c'est pas seulement les Indonésiens qui en extraient, mais il faut savoir que tout l'argent pour acheter les équipements et extraire la cassitérite, il vient pas d'Indonésie. Cet argent, il vient de Thaïlande, il vient de Chine, en fait. Donc ces investisseurs qui ensuite bénéficient de la cassitérite, qui ensuite récoltent en fait la production de cassitérite. Donc l'Indonésie, elle-même, n'en profite pas, en fait, de cette extraction de cassitérite. Ensuite, cette cassitérite, elle envoie dans des fonderies transformées, dans ces fonderies. Certaines fonderies, alors, sont à Bangka, mais parfois, le sable noir, la cassitérite, est envoyée directement en Malaisie ou en Thaïlande, via des pirates, en fait. Et souvent, ces pirates, d'ailleurs, sont escortés par des militaires. Mais plus souvent, en fait, l'étain est fondu à Bangka, et ensuite, il est, mais pas un degré de pureté élevé. Et ensuite, il est envoyé donc en Malaisie ou en Thaïlande, et là, il sera fondu à nouveau à un degré de pureté encore plus élevé. Et comme par hasard, qui se trouve à côté de ce fonderie en Malaisie, tous les géants de l'industrie électronique, Nokia, Apple, Intel, ce qui est le plus frappant, en fait, dans notre reportage, c'est de voir le double discours de ces entreprises, de ces géants de l'électronique. D'un côté, ils parlent de ce devoir de diligence, de ce devoir de transparence, alors que eux savent ce qui se passe sur Bangka. En 2012, par exemple, il y a la responsable de la chaîne d'approvisionnement d'Intel, qui s'appelle Caroline Durand, qui était à l'hôtel de l'hôtel de Bangka pour une conférence, et qui sait très bien tout ce qui se passe à Bangka. Et en même temps, rien n'est fait. Donc le devoir de transparence, en fait, il s'arrête au niveau des intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont les fonderies locales contrôlées par les politiciens qui font toutes leurs affaires. Et en fait, les gens de l'électronique s'arrêtent là. Ils savent qu'il y a une extraction illégale, mais ils font pas grand-chose, en fait.
Laurent Néret, il faut entendre le juriste là-dessus. Parce qu'évidemment, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est obliger tout simplement les entreprises qui rachètent l'étain, comme Apple par exemple, de donner l'origine de son étain, celui qu'il utilise dans ses appareils. Et d'ailleurs, c'est le sens de la fameuse loi Dodd-Frank qui avait été adoptée par le Congrès américain en 2010, sauf que visiblement, elle n'est absolument pas efficace.
Alors, on entend clairement dans l'enquête de Julien Bouissou que, à la question que vous posiez en ouverture, qui sont les pollueurs à la barre et qui, je dirais, attraire devant le tribunal, est-ce le lampiste? Est-ce que c'est l'adolescent, comme dans l'enquête d'Abdoul, qui a 16 ans et qui se targue de gagner plus que son professeur, qui fait ça pour survivre dans un pays en développement? Ou est-ce que ce sont ceux qui sont au bout de ce que l'on appelle la chaîne de valeur, la supply chain? Alors, loin de moi l'idée d'une généralisation, d'une forme de tous coupables, tous responsables. Dans la loi Dodd-Frank, il y a une obligation de vigilance, une obligation de transparence qui existe. Mais je dirais que toutes ces obligations des sociétés en matière environnementale, elles se multiplient, elles sont nombreuses, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, et alors quand on ne respecte pas les règles du jeu,
qu'est-ce qui se passe?
Quelles sont les sanctions applicables?
Et c'est là que
le bât blesse. C'est la problématique de la sanction. Et à ce propos, je crois que l'illustration de ce qui vaut, par exemple, pour le bois précieux, peut-être avec l'affaire des guitares Gibson, peut-être que là, c'est davantage, c'était plus intéressant, et cela a peut-être fonctionné parce qu'on a des juges qui ont décidé de sanctionner. Parce que vous savez, en fait, ce n'est pas illégal que de créer des filiales. Ce n'est pas illégal parce que c'est ce que l'on appelle la théorie de la dilution pour protéger, je dirais, la tête. On parle de la théorie du lézard. En droit, on coupe la queue, c'est-à-dire du lézard malade de la société pour que ça ne touche pas la tête et qu'on ait davantage de profit. Moi, je crois que à l'échelle internationale, il y a eu une initiative en 2014 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour adopter une convention internationale sur les entreprises multinationales, sur leur responsabilité. Pour l'instant, ça n'avance guère. C'est par là que cela doit passer, sûrement.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Julien Bouissou, d'avoir été...
J'aimerais juste ajouter
en quelques mots
par rapport à cette loi Dodd-Frank puisque grâce à cette loi donc, qui a été votée, je crois, en 2011, les entreprises doivent publier la liste des fournisseurs. Et c'est grâce à cette loi, d'ailleurs, que j'ai pu identifier les fournisseurs de Intel, Nokia, Apple ou autres. Mais une fois qu'on publie la liste des fournisseurs, qui va enquêter sur ces fournisseurs? Qui va chercher les informations? Qui va essayer de voir si tout est fait de manière légale ou illégale? Qui va voir combien de concessions ils ont? L'autre problème qui se pose, c'est que ces fournisseurs, là en l'occurrence pour l'État, ils sont à Singapour. Or, si l'entreprise est basée à Singapour, il est impossible d'identifier en fait les actionnaires de ces entreprises. Donc la loi Dodd-Frank, elle a aussi ses limites. La transparence, elle n'est pas toujours si transparente que ça. Et puis ensuite, il faut tout un travail d'enquête. Et personne n'est là pour faire ce travail d'enquête.
En tout cas, vous étiez là pour commencer l'enquête. Une très belle enquête, d'ailleurs, je rappelle, Julien Boussou, qu'on peut retrouver dans cet ouvrage « Les prédateurs » sous-titré « La nature face au crime organisé ». Puis j'en profite également pour signaler aux auditeurs une autre enquête très intéressante que vous venez de réaliser, qui a été publiée hier dans Le Monde, mais qu'on peut retrouver sur lemonde.fr, sur les ratés d'urbanisation en Inde. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin en direct. On parlait du bois de rose, justement. Bah, on va prendre la direction de Madagascar.
En observant bien cet arbre, je peux dire qu'il a entre 50 et 60 ans. Au cœur de l'arbre, on tombe sur la partie rose. Si on arrive vite sur le rose, ça veut dire que l'arbre est bon. Attention, il ne va pas tarder à tomber. Encore quelques coups de hache. Nous, on veut juste cet arbre de bois de rose. Mais pour cela, on doit en abattre une dizaine, voire une vingtaine en plus. Tout ce qu'il coince. Il faut que je reste concentré sur mon objectif. Je dois livrer le chargement. On installe nos bagages dessus. Comme ça, personne ne voit ce que l'on transporte. Il ne faut surtout pas se faire prendre par la police.
Extrait de ce documentaire diffusé sur France 5 récemment, Madagascar, pisse, saphir et bois précieux, le bois de rose, donc ce bois précieux protégé dont la coupe est interdite mais qu'on apprécie particulièrement du côté de la Chine. En 2013, Madagascar avait déjà promis un embargo sur ses exportations de bois de rose, mais devant les trafics incessants, les pays de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction, avaient interdit à l'ensemble de ses pays membres son importation. On va retrouver Gheorghe Yaster qui est à Antananarivo, la capitale de Madagascar, responsable juridique au sein de cette association environnementale de Madagascar, l'Alliance Vaohari-Gazi. Alors, Gheorghe Yaster, le mois dernier, après 5 ans de négociations entre Maurice et Madagascar, 120 tonnes de bois précieux interceptées par les autorités mauriciennes en 2011 ont finalement été rapatriées à Madagascar. Les conteneurs étaient originellement justement à destination de la Chine. C'est la première fois qu'il y a une cargaison illégale de bois de rose qui est renvoyée à Madagascar et que ce bois se trouve finalement dans cette situation où aujourd'hui concrètement il ne peut pas être vendu. C'est un signe positif pour vous? Ça montre que la lutte contre le bois de rose est réelle?
Bien sûr, c'est bien pour Madagascar que cette cargaison illégale a pu être rapatriée. C'est dans le cadre des négociations entre pays CITES. Si une cargaison de produits illicites est saisie, donc normalement il doit être rapatrié dans le pays d'origine, ce qui s'est passé ici. Donc a priori c'est une procédure normale. Comme vous le dites, en ce moment, il y a un embargo et une interdiction absolue de tous les pays membres de la CITES. Donc, en ce moment, on ne peut rien faire avec ce bois de rose. Donc, il est stocké à Madagascar avec les autres stocks saisis dans le pays. On est en train de faire un inventaire, un recensement des quantités saisies ici. Donc, c'est un petit aspect de l'assainissement, comme on dit, de toute cette filière qui pourrait, en principe, être une filière de l'économie de l'artisanat malgache, si on arriverait la maîtriser et la légaliser.
Vous parlez justement d'assainissement. En juillet prochain, Madagascar va remettre un rapport à la CITES, justement, pour montrer les améliorations réalisées par le pays en matière d'assainissement de la filière bois. Et c'est d'ailleurs ce rapport qui permettra de vendre ou pas cette cargaison illégale qui reste bloquée pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir montrer des avancées réelles en la matière? Est-ce que, par exemple, la loi qui a été votée en décembre 2015 par l'Assemblée nationale sur la lutte contre le trafic de bois de rose, est-ce que cette loi vous paraît prometteuse?
Cette loi apporte des éléments que nous estimons positifs. C'est d'abord qu'il est mis en place un système de protection de témoins et qu'il est mis en place un système que des organisations de la société civile puissent se porter partie civile et donc porter plainte dans des cas de trafic illicite de bois de rose qu'ils observent. À part ça, la loi a prononcé des peines vraiment draconiennes sur le trafic de bois de rose. C'est maintenant 10 ans ou 20 ans d'emprisonnement. Mais le grand mais et la grande crainte que nous avons en tant que société civile, c'est que cela va rester un bout de papier. Parce que déjà en 2011, un tribunal spécial pour le bois de rose a été mis en place. Une ordonnance a été promulguée. Mais, faute de moyens, ce tribunal spécial n'a jamais vu le jour. Le tribunal spécial ou même la chaîne spéciale que prévoit cette nouvelle loi est encore beaucoup plus compliquée, beaucoup plus budgétivore, si je peux dire ainsi. Donc, il y a une très grande crainte que, de nouveau, cette chaîne spéciale ne sera jamais mise en place.
Pourquoi semble-t-il, Georg Jaster, ça serait pas mis en place? Parce qu'effectivement, vous parliez de cette loi de 2010 ou 2011, je sais plus, qui interdisait de couper, de transporter et même, on le sait, d'exporter ce bois de rose. Sauf que vous le dites, cette loi, finalement, elle n'a pas été respectée. C'est seulement une question de moyens ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a peut-être aussi un problème de volonté politique? Je vous pose la question parce que lors de son arrivée au pouvoir, le chef de l'État, malgache, avait promis de, je le cite, diriger personnellement le combat contre le trafic de bois de rose. Vous avez l'impression qu'il a fait ce qu'il pouvait quand même ou que finalement il ne s'est pas du tout engagé?
Nous n'avons pas l'impression qu'il a fait ce qu'il pouvait. Effectivement, nous avons l'impression que les actions entreprises par le gouvernement malgache sont fortement symboliques. D'où notre regard critique sur cette loi qui, en telle, n'est pas mal, mais qui prévoit donc tout un instrument compliqué, la mise en place de tout un ordre de justice nouveau. Et jusqu'à présent, les expériences pratiques avec les chaînes spéciales ne sont pas très favorables. À Madagascar, il existe une chaîne spéciale de lutte anticorruption qui n'est pas efficace du tout, tout clairement dit. Nous avons soumis un dossier de trafiquant de bois de rose, un des soi-disant gros bonnets, un soupçonné grand trafiquant de bois de rose, dû à des informations que nous avons pu recouper et que nous avons soumises au bureau indépendant anticorruption, Bianco. Ce bureau anticorruption a étoffé le dossier, ils ont fait leur enquête, leur investigation, et finalement ils ont soumis ce dossier en septembre 2015 à justement cette chaîne spéciale anticorruption, et si je peux dire ainsi, là-bas, le dossier a été enterré. Depuis, on n'entend plus rien de ce dossier.
Pour quelle raison, selon vous? Parce que précisément, c'est un homme qui est peut-être un petit peu trop proche du pouvoir politique et qu'il est protégé, disons-le clairement.
Exactement, c'est exactement notre impression. Nous avons des informations qui démontrent qu'il y a des prises d'influence dans cette procédure du plus haut lieu de l'exécutif. Et donc, notre question que nous nous posons, si vraiment on mettait en place même cette nouvelle chaîne spéciale de lutte contre le bois de rose, disons, qui nous garantira que cette chaîne spéciale sera plus indépendante et plus résistante aux prises d'influence du côté de l'exécutif que la justice de droit commun ou bien que la chaîne spéciale anticorruption qui existe actuellement?
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, Georg Jaster, c'est que ce trafic de bois de rose à Madagascar, il concentre une énorme quantité d'argent et évidemment, du coup, avec des gens qui effectivement ont un pouvoir économique et politique très important. Il y a même, je crois, un nom à ce secteur-là, on appelle ça la bolacratie. Alors on y trouve des entrepreneurs, des anciens ministres, dit-on, des députés, des fonctionnaires. Donc évidemment, des gens très importants qui tirent profit de ce trafic, mais dont on ose s'attaquer de peur de représailles politiques. C'est ça la réalité.
C'est ça la réalité, absolument. Nous nous trouvons ici, je vis depuis 3 ans, donc ici à Madagascar, un des pays malheureusement les plus pauvres du monde. Mais si vous circulez à Tana, vous voyez une quantité étonnante de grandes 4x4 flambantes neuves, des bâtiments se construisent un peu partout. Et les gens dans la rue disent c'est l'argent du bois de rose.
Mais l'autre réalité aussi, et qui est peut-être encore plus difficile, Georg Jaster, c'est que la difficulté, c'est qu'il y a désormais toute une économie autour de ces trafics. Et pas seulement des bénéficiaires richissimes. On a des centaines d'hommes, peut-être des milliers, qui quittent la côte pour aller couper du bois dans la forêt, ce qui génère toute une économie ensuite par cascade dans les petits villages. Donc en réalité, pour régler cette question du trafic de bois de rose, il faut aussi trouver une alternative économique à toutes ces populations. C'est politiquement, c'est compliqué.
Absolument, politiquement, c'est compliqué. Ces grands, si je peux dire ainsi, barons de bois de rose, c'est surtout dans la région nord-est de Madagascar que cela se produit. Là-bas, se gèrent comme bienfaiteurs. C'est eux qui payent les écoles, c'est eux qui organisent les grands festins dans les villages. Comme vous dites, c'est eux qui emploient les gens. Mais bien sûr, c'est un très haut prix. Tout d'abord, ceux qui restent dans les villages, ce sont vraiment des miettes de l'argent qui est gagné avec ce trafic.
Oui, mais les miettes, c'est mieux que rien, Gergely Astor. Et c'est ça aussi le souci, c'est qu'il faut trouver une alternative.
Oui, et il faut la trouver vite parce que cette richesse naturelle est bientôt finie, elle est bientôt détruite. L'alternative serait, d'après nous aussi, une gestion justement durable, le développement d'un artisanat de bois de rose. Il y a par exemple des producteurs d'instruments de musique de haut de gamme américains qui seraient très intéressés à se fournir de la matière première, à acheter du bois de rose à un très haut prix à Madagascar, car c'est une des meilleures qualités.
Donc c'est intéressant ce que vous dites. En gros, votre position, c'est vous n'êtes pas pour une interdiction totale du commerce du bois de rose. Au contraire, vous souhaiteriez finalement qu'on mette en place des filières contrôlées avec des quotas, c'est ça?
Exactement. Le bois de rose est sur l'annexe 2 de la CITES. Rappelons que cela n'est pas une interdiction totale de commercialisation de l'essence, mais ça nécessite une gestion justement durable et contrôlée et l'établissement de quotas qui permettent à la ressource de se régénérer, de ne pas disparaître.
Merci beaucoup, Jorge Yaster, d'avoir été avec nous depuis Antananarivo. Je rappelle responsable juridique au sein de cette association, l'Alliance Voari-Gazi. Vous voyez, Laurent Néré, il reste beaucoup de travail pour lutter contre ces écocides. On le voit là encore sur Madagascar.
Je crois que plus globalement, en conclusion, comme la COP21 l'a montré, la protection du climat implique un investissement de tous et montre la responsabilité climatique globale. Et bien la lutte contre la criminalité environnementale est aussi l'affaire de tous. Et finalement, l'impuissance de certains États à lutter contre cette criminalité sur leur territoire pourrait être dépassé par la puissance d'autres États et du droit d'autres États de destination.
Merci beaucoup en tout cas Laurent Néré de nous avoir éclairé ce matin sur cette délicate question des écocides. Je rappellerai votre ouvrage « Des écocrimes à l'écocide, le droit pénal au secours de l'environnement ». On mettra tout ça évidemment sur la page de Culture Monde.